Et il est écrit encore, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu, notre Dieu, ou Mammon, qui est le Dieu de l'argent. » N'est-ce pas ? Et donc, je me suis posé la question, bon, je vois un peu ce que c'est que les richesses injustes. Ce n'est pas les richesses qu'on a injustement gagnées, ça c'est du vol, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas du vol dont il est question, mais c'est ce que le Seigneur nous a donné comme capacité, comme, voilà, qui font notre, ce que l'on est nous. Et ça c'est injuste, il est injuste que je réussisse très bien à faire des maths alors que d'autres ne vont pas pouvoir le faire. Il est injuste que je connais quelqu'un qui parle 9 langues et moi j'ai fait 9 ans d'anglais pour rien comprendre à l'anglais. N'est-ce pas ? C'est injuste. Il est injuste que quand je me mette à shooter dans un ballon, il aille tordu. C'est injuste que l'autre shoote dans le ballon et ça va droit dans les buts. C'est injuste. Il est injuste qu'avec mes deux mains gauches, j'arrive pas à bricoler. Alors que d'autres, ils savent tout faire, n'est-ce pas ? Il est injuste que certaines personnes ont des voix extraordinaires et d'autres chantent faux. C'est injuste. Il est injuste que nous puissions être en bonne santé alors que d'autres personnes sont malades. Il est injuste que nous soyons hautement intelligents alors que d'autres arrivent tout juste à signer leur nom. Il est injuste, toutes ces choses-là sont injustes. Mais ça nous définit, n'est-ce pas ? Et ce que nous avons, c'est déjà, même si c'est injuste, nous devons le faire fructifier pour Dieu. Et si donc vous n'avez pas été fidèle avec ces richesses injustes, il est injuste aussi qu'un homme qui travaille touche plus qu'une femme qui fasse le même travail. C'est injuste. Il est injuste qu'un tel est né dans une famille milliardaire et que la seule chose qu'il ait à faire, c'est de gérer son argent et de faire travailler les autres. Il est injuste que cet homme intelligent n'ait jamais eu l'occasion de faire des études parce qu'il n'y avait pas d'études dans son pays, parce qu'on l'a considéré comme quelqu'un qui n'était de basse naissance. Les castes hindoues sont injustes, tout est injuste. Tout est injuste. Il est injuste que je sois en bonne santé. Il est injuste que j'ai atteint l'âge de 65 ans et d'être toujours en bonne santé, alors que mon grand frère a été enlevé à l'âge de 9 ans. C'est injuste. C'est injuste. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ces richesses injustes que Dieu m'a confiées ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? Est-ce que j'ai été fidèle ? Si nous sommes fidèles avec ce que Dieu nous a donné, eh bien, il nous en confiera d'autres. Et ça, c'est ce qui m'intéresse ce matin, c'est les richesses véritables. Parce qu'en fait, ce que j'ai reçu à ma naissance, ce n'est pas vraiment une richesse véritable. C'est un moyen que Dieu me donne pour le servir, mais si je ne le sers pas, ce sont des richesses qui ne servent à rien. Dans Luc 16, il nous dit des richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Dieu veut nous confier des choses meilleures que ces richesses que nous avons. Il veut aller au-delà de notre propre nature. Et on va voir ensemble qu'est-ce que peut être ces choses véritables. Qu'est-ce que Dieu peut nous confier ? Alors, dans Matthieu 6, attendez que je trouve Matthieu 6, je l'ai noté, mais j'aime bien chercher dans ma Bible, parce que je trouve que ça ressort mieux. Verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la taille et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera son cœur, ton cœur. » Ça, c'est le thème des scénettes de Noël, hein, des enfants. L'œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Hein. Mais si ton œil est en mauvais état, etc., nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un ou aimera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà, voilà le texte. Tout à l'heure, on a eu un don spirituel aussi, Et ce que je voulais dire, c'est ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. N'est-ce pas ? Et c'est un peu ce verset qui a été cité, c'est son complément. Fais de l'Éternel tes délices, hein, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Là, ça, c'est formidable. Amasser des trésors dans le ciel. Alors, si vous allez à la banque, il vous dit, voilà, je voudrais amasser des trésors dans le ciel, ça, ils ne savent pas faire. Hein. Alors, on peut amasser des trésors et on peut acheter tout. On peut acheter de la pierre, on peut acheter des terrains, on peut acheter des tas de choses, on peut placer en assurance vie, c'est-à-dire quand on meurt, paf, c'est nos enfants qui touchent. Déjà, nous, ça nous sert qu'à passer quelque chose. Ouais. On peut acheter des tas de choses, on peut même acheter des choses qui n'existent pas, virtuelles. Et il y en a qui sont devenus milliardaires, en ayant acheté quelque chose qui n'existe pas et dont le prix monte. Ils l'ont acheté peut-être, 1000 euros et aujourd'hui, ça en vaut 170 000 euros. Ils ont multiplié par 170 leur investissement. Mais investir dans le ciel, faire son trésor là-haut, ça, vous ne le trouverez pas. Il y a certaines religions, certains prédicateurs, même parmi les évangéliques, attention, quand vous entendez évangélique, méfiance. Hein. Puis il y a de tout et du n'importe quoi. Surtout sur Internet. Certains prédicateurs vous font croire que si vous lui donnez l'argent, eh bien lui, il va l'investir dans le ciel. C'est un mensonge. Dieu se moque de notre argent. Il n'en a pas besoin. Rien ne rentre dans le ciel. De l'or, de l'argent et de ce que nous pouvons avoir. Notre argent n'intéresse pas notre Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que l'on fait avec ce qu'il nous confie, avec l'argent qu'il nous confie, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça qui intéresse Dieu. Mais on n'achète pas Dieu. Et on ne peut pas faire un transfert direct de la caisse de l'Église vers la caisse du ciel. C'est déjà compliqué de transférer d'une caisse culturelle vers une caisse cultuelle. Alors, de cultuelle vers céleste, on ne sait pas faire. Tu sais faire ? Non, ce n'est pas prévu. Et ça ne marche pas. Non, les richesses que l'on va s'accumuler dans le ciel, on ne peut pas les acheter. C'est comme le salut, c'est impossible. Ce sont des richesses. Vous savez, Dieu dit, c'est écrit dans la parole qu'à lui, l'or et l'argent. Il s'en moque, c'est à lui. D'ailleurs, dans le ciel, on va piétiner l'or. C'est pavé d'or. Alors, vous voyez, hein, quelle valeur aux yeux de Dieu. Mais ce qui est véritable, ce sont ces richesses que l'on pourra retrouver dans le ciel, celles qu'on va amener. Et croyez-moi, elles ont une valeur inestimable. D'ailleurs, dans Matthieu 16, 26, il dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Et j'aimerais parler de cette première valeur, cette valeur essentielle qui a été distribuée équitablement à tous, à chacun, dès notre conception. Cette première richesse véritable qui nous est donnée, c'est notre âme, qui peut être traduite comme vie. C'est ça qui nous a été donné. C'est ça qui est éternel. C'est ça qui va rentrer dans le ciel. Le corps, lui, va disparaître et on aura un corps nouveau. Mais notre âme, ça, c'est la valeur essentielle. Luc 12, verset 20. Où est-ce qu'ils m'ont mis Luc ? Voilà, voici ce qu'il est écrit. Luc 12, verset 20. Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. et ce que tu as préparé, pour qui sera cela sera-t-il ? C'est un homme qui vient de gagner une quantité de... énorme. Il vient d'avoir une moisson, d'une abondance. Il n'avait jamais vu ça. Et il calcule. Et je vais construire ça, et je vais construire ça, et je vais avoir... Je l'ai stocké, mon âme. Réjouis-toi. Réjouis-toi, ton âme. Son âme sera redemandée. Et tout ce qu'il a gagné, c'est pas ce qu'on gagne qui réjouit notre âme. C'est le contact avec le Seigneur qui peut réjouir notre âme. Nous avons donc une âme éternelle, et cette âme est au départ de notre vie en mauvais état, condamnée à la perdition éternelle. Le péché a grandement endommagé, corrompu notre âme. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur, dira Jean dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 8. Mais voilà que Jésus vient sauver notre âme. Il n'est pas venu sauver notre portefeuille, il est venu sauver notre âme. Il sauve le pécheur que je suis. Il le fait lui-même en donnant sa vie sur la croix. Amen. Il porte nos péchés sur lui et il meurt. Potentiellement, tous les hommes sont sauvés en Christ. Il a tout racheté. Il a pris le lot. Il n'a pas choisi. Il a pris la totalité de l'humanité qui vivait en ce temps-là, qui vivait avant et qui vivra après. Il a tout pris. Potentiellement, Jésus n'a pas payé pour un petit nombre. Vous vous dites, ben, Jésus, en fait, à Martigues, il a payé pour 150, on est 150 malgré, stop, on arrête, c'est faux. Il a payé pour chaque homme, chaque femme qui habite à Martigues, à Port-de-Bouc, à Foss, à Port-Saint-Louis, partout où nous pouvons habiter, sur la Côte-Bleue, Châteauneuf, partout où nous sommes. Comme l'a exprimé Jean-Baptiste quand il a eu cette révélation en voyant son cousin Jésus de Nazareth, là, il dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il ôte le péché, il enlève le péché. Potentiellement, tous les hommes sont sauvés, mais malheureusement, tous ne le seront pas. Parce qu'il y a... Il y a pour ces perdus dont le prix est payé, eh bien... il y a un problème. L'endurcissement de leur cœur, le mépris du sang de Jésus, l'indifférence par rapport à la croix ou même, quelquefois, leur haine de Christ les pousse à rejeter le salut et la grâce de Dieu. Ils n'auront aucun autre moyen pour entrer dans le ciel, pour être sauvés. Mais nous, nous avons cru. Mais moi, j'ai cru. Je suis parmi ceux qui ont accepté la sentence qui était sur moi. Oui, je suis pécheur. Je suis perdu. J'ai reconnu et j'ai voulu changer de vie. Je me suis repenti. J'ai accepté Christ. Et la grâce incomparable de notre Dieu. Et je suis sauvé. Et mon âme est sauvée. Ce bien précieux, ce bien éternel, il est sauvé, il est réservé à l'éternité avec Dieu, alors qu'avant il était réservé à l'éternité sans Dieu. Sans Dieu. Et notre première richesse, notre âme, est maintenant destinée à passer l'éternité dans la présence de Dieu, avec tous les rachetés aussi, mes amis. Prenons soin de notre âme. Nourrissons-la de la parole de Dieu. Ne retournons pas à nos péchés, à nos colères, à nos violences, à tout ce qui fait que nous étions perdus. Notre âme sera la première chose à être endommagée si nous retournons à ces choses-là. C'est notre âme qui est endommagée. C'est notre âme. Et bien sûr, cette âme que nous avons, c'est notre valeur. Vous vous êtes dit, eh bien, j'ai sur moi quelque chose de valeur, j'ai mon âme. C'est quelque chose de valeureux. C'est quelque chose qui mérite d'être protégé. Amen. De ne pas être soumis à ces choses mauvaises qui viennent du monde, mais être mis à part pour Dieu. Et si mon âme a de la valeur, celle d'autrui a une valeur inestimable. Et lorsque l'on pense à ce verset, hein, si tu as été infidèle avec les richesses injustes, qui te confiera les véritables ? Dieu regarde comment nous gérons les richesses terrestres que nous possédons, qu'il nous a données, et selon ce qu'il nous voit faire, il nous confiera des richesses véritables. Je pense qu'une grosse partie de ces richesses véritables, ce sont les âmes de ceux qui nous entourent. Ce sont les âmes de ceux qui nous entourent. Dieu nous donne des âmes, nous confie des âmes. Dans Hébreux 2:13, il est dit « Me voici, moi, et les enfants que tu m'as donnés. » Quand Samuel est né, eh bien, Anne l'a élevé jusqu'à le sevrer. Et puis, tout jeune, elle est allée au temple. Et elle a dit « Voilà, Samuel, mon fils, c'est Dieu qui lui avait donné. » Et elle dit « Maintenant, je le prête à l'Éternel. Je le prête à l'Éternel. » Tant et si bien que l'on voit ici que c'est vraiment Dieu qui confie les âmes de nos enfants. C'est la première chose, ouais. Il va confier les âmes de nos enfants. Nous en sommes responsables devant Dieu. Si vous avez des enfants, vous en êtes responsables devant Dieu. Et nous devons tout faire pour que leur âme soit sauvée. Ah, bien sûr, on ne va pas pouvoir les sauver, se sauver à leur place. On va pas pouvoir, on n'a pas la capacité, la prérogative de pouvoir les sauver. Mais on peut les mettre dans des situations qui font eh bien, qu'ils vont choisir le bon choix, qui ne vont pas aller ni à droite ni à gauche, qui risquent de perdre leur âme. Nous devons faire tout pour les entourer de notre amour afin qu'ils puissent réaliser le prix de leur âme. Et Dieu, donc, la première chose qu'il confie aux parents, c'est leurs enfants. Ouais, c'est la première chose. Ça, c'est une richesse, comme on lui a dit, importante, éternelle, une véritable richesse. Dieu veut nous confier des richesses véritables. Il va confier à l'Église les âmes perdues. Un homme a la valeur de son âme et non de son compte en banque, ni de ce qu'il a accompli. On devrait regarder les hommes comme ça, les femmes comme ça, quelle que soit leur vie, quelle que soit la façon dont ils s'habillent, comme ils sont. Elon Musk, presque 1 000 milliards de dollars, valeur 1. Le SDF que l'on a rencontré il y a quelque temps, une âme détruite, un corps misérable, valeur 1. Cet être qui est en formation dans le ventre de sa mère, qui n'a pas le droit encore à l'existence, à un prénom, valeur 1. Cette personne qui est venue au monde avec un lourd handicap que personne ne veut élever, qui se retrouve rejetée par tous et quelquefois même par sa propre mère, valeur 1. Ce vieillard qui est dans une EHPAD, que personne ne va visiter, et qui attend simplement de mourir, valeur 1. Cette personne qui est en prison pour tout le reste de sa vie, ou presque, parce qu'il a commis des choses abominables, valeur 1. Ce Simon Pierre qui venait de renier son ami et son maître dans la barque et qui reconnaît Jésus au loin sur le rivage et qui va se jeter à l'eau, valeur 1. Et ce jeune homme de 17 ans, il y a 48 ans, qui s'est fait baptiser ici et qui vous parle ce matin, valeur 1. Et toi qui m'écoutes, ce matin, qui que tu sois, quelle que soit ta vie, quelles que soient tes décisions, tes réactions, tes colères, juste tes péchés, quelle que soit ta vie, valeur 1. Valeur 1. Tous ceux qui sont sauvés, valeur 1. Tous ceux qui sont perdus, valeur 1. On a tous la même valeur. Et Christ est mort indéfiniment pour chacun de nous, sans regarder, et au contraire, s'il a regardé à notre vie, c'est pour prendre le péché. Valeur 1. Tu as une valeur 1. Tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont perdus, et cette valeur 1, aucune richesse injuste sur la terre ne peut l'égaler. Aucune richesse ne peut l'égaler. Le prix d'une âme. Le prix d'une âme. Il y a dans des évangiles deux paraboles qui se ressemblent énormément. La première, c'est la parabole des talents. Est-ce que vous vous rappelez de cette parabole des talents ? Les paraboles des talents, le talent, c'est déjà quelque chose qui a beaucoup de valeur, n'est-ce pas ? Et il est confié à des serviteurs par le maître. À un, il donne un talent, ce qui est déjà formidable. Au deuxième, il va en donner cinq, ce qui commence à être vraiment une somme astronomique. Et au troisième, il va en donner 10. Et là, on peut dire, voilà des richesses injustes, n'est-ce pas ? Ce sont des richesses injustes. Les deux paraboles se ressemblent, mais elles ne parlent pas exactement de la même chose, mais elles disent à peu près la même chose. Et donc, voici que c'est le maître s'en va et les serviteurs ont ses talents. Et que font-ils ? Eh bien, celui qui en a 10, on gagne le double, etc. Enfin, vous connaissez la parabole. Et quand le maître revient, eh bien, il a deux catégories de personnes en face de lui. Ceux qui ont été fidèles avec les richesses injustes et ceux qui ont été négligents, infidèles, qui n'en ont rien fait. Si vous avez un talent de Dieu et que vous avez fait le trou de ce talent pour l'enterrer, vous faites partie de cette catégorie. Or, qu'est-ce qu'il dit à ceux qui ont gagné autant ? Il va leur confier plus. Notez bien ce mot. Il va leur confier plus. Et à celui qui n'a rien fait, mais rien du tout, même pas mis son argent à la banque, qu'il a vraiment méprisé, eh bien, il va le traiter de serviteur inutile. Et il va le mettre dehors. Moi, ça me fait trembler quand j'entends ça. Parce que celui qui dit cette parabole, c'est pas moi, c'est Jésus. Et il parle de ces richesses que nous avons, de notre vie. Qu'est-ce qu'on en fait de notre vie ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Puisque ça fait 48 ans que je suis baptisé, est-ce que j'ai fait quelque chose de bien pour le Seigneur ? Est-ce que j'ai été fidèle dans ce qu'il m'a confié ? Est-ce que j'ai été fidèle ? Et ça, c'est pas à vous de répondre, c'est à moi. C'est ma question et c'est ta question à répondre pour toi. Et puis, il a la parabole des mines. Alors, c'est à peu près pareil, il y a un maître qui va donner des mines. Les mines, c'est 60 fois moins qu'un talent. On pourrait dire que ce n'est pas grand-chose. Hein. Et il donne à tous la même chose. À tous la même chose. N'est-ce pas ? Et quand il revient, il va s'intéresser à 3 parmi les 10. Et on va retrouver à peu près la même chose. Il y en a certains qui ont gagné beaucoup plus. Et il y en a d'autres, notamment le troisième, il a eu peur, il n'a rien fait. Je sais que la peur peut nous tétaniser, la peur peut nous empêcher de faire des choses, mais l'Esprit de Dieu peut nous pousser, peut nous donner de ne plus avoir peur, ou peut nous aider même dans notre peur, à nous permettre de continuer à faire les choses pour le Seigneur, parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Alors, ce qui se sont présentés dans le ciel, là aussi, cette autre parabole, on dit, moi, j'ai fait plein de choses sur le ciel pour toi, dans la terre, mais non, je ne t'ai jamais connu. Qu'est-ce que c'était? Aller visiter quelqu'un de malade, aller en prison pour quelqu'un qui était emprisonné, aller donner un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, un vêtement à celui qui manque, l'hébergement à celui qui... C'était peut-être pas grand-chose, mais ça accumule quelque chose dans le ciel. Gling, gling, gling. Oh là là, c'est dans le ciel. Et on ne le fait pas pour accumuler, on le fait par amour. Et comme je l'ai dit, il y a trois choses qui demeurent. Trois choses qui demeurent, là. Hein? Vous savez les trois choses qui demeurent? Non?
Oui.
Ouais. Alors, la première, c'est la foi. Et vous savez que ça m'a empêché de dormir, ça, hier soir, ça. L'espérance et l'amour. Je comprends que l'amour, ça reste. Parce que c'est la nature même de Dieu. Donc, dans le ciel, il y a de l'amour. C'est sûr. Et comme nous sommes enfants de Dieu, il y a de l'amour dans notre cœur qui est répandu, c'est sûr. Mais je me dis, mais pourquoi, à quoi ça servirait-il d'avoir encore la foi et l'espérance? Alors là, je vous le laisse. Hein. Dans le ciel, il y aura encore de la foi, on aura encore de l'espérance. Oh. Et de l'amour. Méditons cela. Moi, je ne donne pas toutes les solutions, hein, parce que j'en suis loin. Dans la parabole des mines, il y a quelque chose qui m'a surpris. C'est qu'à celui qui a, avec cette mine, fait fructifier ce que Dieu lui avait donné, eh bien, le maître lui dit, « Je vais te confier des villes. » Vous avez remarqué ça? « Je vais te confier des villes. » Oula! Ça veut dire quoi, ça, Seigneur? Alors, si on met bout à bout tout ce que j'ai dit, une ville, bien sûr, c'est des bâtiments, c'est des magasins, c'est des richesses. Mais ce n'est pas ça que Dieu, le maître, va confier. Il va lui confier les villes pour qu'il les gouverne. Il va confier des villes. Et dans les villes, qu'est-ce qu'il y a dans les villes? Il y a des âmes. Il y a des âmes. Il y a des âmes perdues, il y a des âmes sauvées, mais il y a des âmes. Et celui qui est fidèle dans les choses injustes, on lui confiera des valeurs véritables. Et d'un seul coup, j'ai compris, enfin pour moi, ça est devenu évident, c'est que pour ces amis qui étaient là, qui ont fait fructifier leur mine, Dieu va leur confier des âmes. Ça, c'est une valeur véritable. Et les âmes que nous avons autour de nous, pourquoi Dieu ne nous les confie pas alors? Pourquoi nous prions depuis des années et des années que ce matin, il y a tant de chaises vides et tant de perdus sur Martigues, sur Fos et dans toute la région? Avons-nous été fidèles avec les petites choses? Avons-nous été fidèles? Il y a deux personnes dont je voudrais vous parler ce matin. Le premier, c'est un Italien, un prêtre italien qui a vécu dans les années 1830-1888, donc le 19e. Il s'appelle Jean Bosco, mais on l'appelait Don Bosco, rien à voir avec notre frère Jean Bosco, hein, Canon d'Equé. D'accord? Voilà. Et il a été particulièrement actif auprès des jeunes qui étaient rejetés, qui étaient dans la rue, de la jeunesse, des enfants. Et sa devise, c'était « Donne-moi des âmes et prends tout le reste ». C'était sa devise. Et encore aujourd'hui, eh bien, le groupement qu'il a créé, je ne sais plus comment on appelle ça, le mouvement, eh bien, garder cette devise. Et c'était vraiment un cri du cœur, « Donne-moi des âmes !» Mais il n'est pas le premier à avoir dit ça. Il y a eu un puissant réveil en Angleterre, ou au Royaume-Uni, je ne sais pas comment on appelle ça, un siècle avant, entre 1714 et 1770, le réveil qu'on appelle le réveil méthodiste. Et il y a notamment trois pasteurs qui se sont levés, deux qui étaient frères, John et Charles Wesley, et un qui avait particulièrement à cœur l'évangélisation. Il s'appelait George. Alors, la prononciation, je pense qu'ils vont rire là-devant. Whitfield. Whitfield. Comment tu le prononces ? Whitfield. Whitfield. Voilà. George Whitfield. Vous voyez, avec l'anglais, c'est bien, parce que quand vous voyez W-H-I-T-E, c'est White, mais là, c'est Whitfield. D'accord ? Allez comprendre pourquoi. Hein ? C'était un ami qui avait particulièrement à cœur les gens pauvres qui vivaient à cette époque-là en Angleterre. Et il avait une prédication qui touchait le cœur de ceux qui étaient perdus, des âmes perdues. Et il disait « Seigneur » dans sa prière, souvent, et il répétait ça, « Seigneur, donne-moi des âmes ou prends mon âme. Soit tu me donnes des âmes, soit tu me prends. » Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces choses qui ont la véritable valeur. Ce sont les âmes qui sont perdues. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi des âmes ou prends mon âme. Dieu ne nous confiera jamais des âmes précieuses si nous n'avons pas un traitement rigoureux avec les richesses injustes, les talents, les mines qu'il nous a donner. Si nous-mêmes, nous ne savons pas prendre soin de notre âme, il ne nous confiera pas des âmes. C'est une prédication simple que je fais ce matin. C'est un thème. Et c'est pour nous montrer que, eh bien, on peut conclure, on peut s'interroger soi-même. C'est une pensée extrêmement importante. Comme une conclusion à tout ce qui a été dit, si l'Église de Martigues, si les membres qui la composent, si donc moi, je reste fidèle dans les richesses injustes, Dieu nous donnera les villes qui nous entourent. Et là, on met la... Là, c'est quelque chose d'important. Ce qui veut dire que si je gère injustement, enfin si je gère mal tout ce que Dieu m'a donné, si je néglige mon âme, Dieu ne nous donnera jamais les âmes de la ville dans laquelle nous vivons. Et cela montre notre responsabilité. Oui, Dieu fait tout. Oui, il va nous aider. Oui, je ne suis pas en capacité de sauver, c'est lui qui va le faire. Mais il va me confier quelque chose, si vraiment j'ai à cœur de le servir. Alors, je ne vous demande pas d'être tous des George Whitfield, hein, qui va jusqu'à dire « prends mon âme », qui a une telle souffrance de ses âmes perdues quand il sortait dans la rue, qui voyait cette misère, cette débauche, ce ravage de l'alcoolisme et autres, comme nous en avons aujourd'hui. Il ne pouvait pas le supporter. Je ne vous demande pas de dire « prends mon âme ». Je ne demande pas de jouer un rôle qui ressemblerait à celui de Georges. Je vous demande au moins réaliser à quel point Dieu a besoin de nous, à quel point Dieu nous veut beaux et belles pour lui, à quel point nous avons besoin de bien gérer notre âme, de bien gérer notre amour, notre âme. Aurons-nous le zèle, l'amour, la foi pour reprendre la prière de Georges ou de Jean ? Donne-nous des âmes. Donne-nous des âmes. Je voudrais qu'on prie, mais avec sérieux, comme toujours d'ailleurs. Amen, Seigneur mon Dieu. C'est vrai que nous avons besoin de temps en temps de remettre les pendules à l'heure dans nos vies. Seigneur, tu n'es pas là pour accuser, mais pour relever et pour ouvrir nos yeux, Seigneur, sur des valeurs spirituelles que nous ne connaissions pas, sur notre propre valeur. Oui, bien sûr, je suis un bon à rien. Oui, bien sûr, je peux rien faire. Mais si je peux gérer avec efficacité ce que tu m'as donné, et si chaque membre de l'Église le fait, alors tu nous confieras des âmes. Des âmes en abondance, Seigneur mon Dieu. Et ma prière ce matin, Seigneur, c'est que nous puissions être sérieux avec notre âme, sérieux avec notre engagement, sérieux, Seigneur, devant toi, sérieux, Seigneur, et je te demande pardon devant mes frères et sœurs parce que je ne l'ai pas toujours été. Parce que quelquefois, tu es venu me chercher dans des endroits où je n'aurais pas dû être. Quelquefois, tu m'as tendu les mains alors que j'étais tombé. Seigneur, donne-nous les âmes de Martigues. Donne-nous les âmes de Port-de-Bouc. Donne-nous les âmes de la Côte-Bleue. Donne-nous les âmes de Châteauneuf-les-Martigues. Donne-nous les âmes de la maison, des maisons qui nous entourent. Donne-nous les âmes, Seigneur, de Fonsarante, Seigneur mon Dieu, et de toutes les environs. Seigneur mon Dieu, envoie ton esprit, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, nous avons soif de te voir agir. Merci pour les baptêmes qu'il y a eu dernièrement, Seigneur. Mais donne-nous une grande moisson d'âmes, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et donne-nous la capacité de les gérer, de les entourer, de les aimer, Seigneur, et de les entourer jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la présence de Dieu. Amen. Amen, Seigneur. Bénis l'Église ce matin. Fortifie chacun ce matin. Alléluia, mon Dieu. Utilise-nous pour ton œuvre, Seigneur. Et merci pour le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, j'aimerais qu'on reste dans ce moment-là.